voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Alain Corbin. Ce soir, un parcours provincial qui mène à la Sorbonne.
Alain Corbin, bonsoir.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons parlé de votre enfance en Normandie auprès d'un père médecin de campagne, catholique, que vous accompagnez dans ses visites, ce qui vous a imprégné du monde paysan et habitué sans doute à l'observation, des qualités qui ont fait de vous un historien des sens et du sensible. Autre conséquence de votre enracinement dans la France profonde, votre formation académique, qui ne s'est pas faite à l'école normale supérieure auprès d'un caïman, mais en province, et sans passer par les classes préparatoires. Mais pourquoi Alain Corbin? D'abord, pourquoi avez-vous choisi l'histoire comme discipline et pas la littérature? Vous nous avez dit hier soir que vous aimiez beaucoup lire les textes du XVIIe siècle.
Bon, c'est très clair. L'histoire, je ne me suis jamais posé la question de toute ma vie. C'était évident que c'est ça qui m'intéressait. Dès que j'ai eu 4 ou 5 ans, j'avais des petites cartes représentant les différents rois ou les différents événements de l'histoire de France. Et ensuite, quand j'ai été en 6e, 5e, c'était tellement rude dans cette institution dans laquelle j'étais. C'était une discipline de fer. On ne revenait jamais en vacances, sauf au bout de 45 jours. On n'avait pas... Le dimanche, c'était le messe de matin, grande messe, vêpres accomplies. Quand il y avait une étude, c'était pour faire des lettres aux parents. Bon, on n'avait rien, quoi. Alors, l'histoire a été pour moi un refuge. Le manuel de l'histoire, je le connaissais par cœur, ça m'intéressait. Je lisais aussi des romans, hein, faut pas exagérer, les Jules Verne, Victor Hugo, Notre Dame de Paris, je prends cet exemple. Bon, c'était toujours plus ou moins historicisé, hein, ces romans. Je n'ai vécu, et je me suis jamais posé de questions, j'étais toujours le meilleur en histoire. Jusqu'à la sortie du bac, j'étais toujours le meilleur, on le savait dans la classe, on ne cherchait même pas à être devant moi, parce que j'étais le meilleur. Après, je me suis jamais posé de questions. Voilà.
Et la bibliothèque Alain Corbin dans cette institution était bien achalandée
ou il non, y avait des... Non, mais chez mon père. Mon père avait acheté, en tant qu'avant son mariage d'ailleurs, les grands Victor Hugo, Chateaubriand, Balzac, Flaubert, tout ça. Il y avait ça derrière, dans son cabinet de consultation. Il y avait les œuvres complètes de tout ce que je viens de citer là. Donc dès que j'ai eu l'occasion de lire à Balzac, etc., c'était à la maison. Hein. Oui, j'aimais beaucoup la lecture. La lecture d'histoire, effectivement, hein, quand à Noël, c'est ce que je voulais, un livre d'histoire. Voilà. Donc je me suis jamais posé la question.
Pourquoi vos parents vous ont-ils laissé dans ce pensionnat si dur? Il n'y avait pas d'autre solution?
Il y avait peut-être d'autres solutions. Mon frère, par exemple, était chez les jésuites, lui, à... beaucoup plus loin, au Mans, à Sainte-Croix-du-Mans, là où était, je crois, Saint-Exupéry, des choses comme ça. Moi, non, moi, j'étais avec les prêtres de campagne. Hein. C'était plus moins prétentieux. C'était plus près aussi de la maison. Alors, ça permettait à ma mère, quand elle avait la permission, de venir me voir en vélo. Mais c'est pour ça, je pense... du point de vue de l'enseignement, je ne sais pas, c'est pas sur quoi j'insiste, c'est sur la rigueur de la discipline,
des exigences. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas fait de classe préparatoire?
Ça c'est très simple la réponse. C'est que dans ce bocage, quand on venait d'avoir le bac, on ne connaissait pas l'existence des classes préparatoires. Quand j'ai été à Caen. Et qu'il y a une belle classe préparatoire à l'époque, par exemple, Jacques Léonard, qui est devenu un ami, était là. Eh bien, ça allait de soi, on allait s'inscrire à l'université. Voilà. Et je ne connaissais pas, je vous assure que je ne connaissais pas l'existence même des classes préparatoires, que j'ai découvertes donc à ce moment-là, et dont j'ai un peu subi au moment des oraux d'agrégation à Paris. Enfin, ça, c'est autre chose.
C'est-à-dire, vous avez un peu subi le fait de ne pas être passé.
Oui, et de ne pas être normalien. On était envoyé dans un étudiant qu'on voyait. Vous savez, les résultats d'agrégation, il y avait 50-51. C'était Colombat supérieur, Saint-Cloud, supérieur, etc., etc. Puis il y avait étudiant Lyon, bon, oui, étudiant encore, etc. Alors moi, la première fois que je suis allé là, dans cette épreuve à Paris, quand je suis sorti de l'épreuve, j'avais un groupe de... Et j'ai compris que c'était des Normaliens. Mon pauvre ami avec... Oh là là, avec ce que t'as fait... voilà, hein, oui. Tu vas pas aller loin.
Vous avez regretté de ne pas aller en classe?
Oh, non. La liberté que j'ai eue toujours durant mes études, la préparation libre de l'agrégation, etc., ça correspondait beaucoup mieux à mon tempérament.
Une fois que vous avez l'agrégation, pourquoi allez-vous à Limoges?
Le lendemain matin, il y a un inspecteur général qui me dit « Ah, voyons, voyons, vous voulez aller dans l'Ouest ?» C'est assez logique. « Eh bien, j'ai La Roche-sur-Yon, Pau ou Limoges ?» Bah, c'était pas tout à fait l'Ouest, hein, vous êtes d'accord. Alors, La Roche-sur-Yon, je vais faire là... Pau, ça me paraissait vraiment loin de la Normandie. T'sais. Limoges, plus près, j'ai pris Limoges.
Et très peu de temps après votre arrivée à ce poste, Alain Corbin, vous êtes appelé en
oui.
Algérie.
Quatre mois après, oui. Quatre mois après l'arrivée, j'étais en civil, hein, j'étais envoyé en civil.
Vous vous intéressiez avant de partir à la guerre d'Algérie?
Non.
Non.
Ben non, j'étais évidemment comme tout le monde, au courant,
oui.
Hein, de ça, qu'il y avait qui était parti.
Vous étiez professeur d'histoire. Vous étiez
professeur. Ben, 4 mois, oui. 4 mois,
c'est pas
beaucoup. Mm. J'ai reçu ma convocation, on m'a retrouvé à Inarnat, près de Sétif. Alors, je suis allé. C'est le jour de mon inspection générale, la première inspection générale qui n'a pas été très brillante. J'ai dit à l'inspecteur... Voilà, j'ai ma feuille de route pour aller à Inarnat. Alors, mon cours aujourd'hui, il s'est redressé. Il était tout petit, mais enfin, il s'est redressé. Il m'a dit, monsieur, j'ai fait Verdun. Qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui vous dit ça?
Pourquoi n'a pas été brillante votre inspection à la
campagne? Je suis pour préparer. Je partais, normalement. Enfin,
ouais, vous aviez la tête ailleurs. Et vous étiez politisé?
Non.
Non.
Non, je n'ai jamais été, de toute façon. Alors, j'ai toujours voté. Hein. J'ai toujours voté, mais sans être militant. Si, j'ai participé à une manifestation. Vous vous rendez compte, je me demande maintenant pourquoi j'ai fait ça. Pour la défense de la 4e République. C'est peut-être parce que. Je sais pas. Parce que j'étais né politiquement pendant la 4e République. Alors, aussi, en l'an 2000, 2002, etc., j'ai participé à une opération escargot pour défendre la forêt dite du Ménilbrou, dans l'Orne, qui est pas loin de la maison de famille, où on a entassé des millions de tonnes de déchets. C'était un projet à ce moment-là, je me suis levé contre ce projet, donc avec les écologistes du coin et tout, mais on n'a pas été écoutés, ça s'est fait quand même.
Qu'avez-vous fait en Algérie, Alain Corbin?
Ah,
vous y avez pas combien
d'abord,
de temps?
D'abord, j'ai passé 4 mois affreux près de Sétif, dans des classes sous le commandement. Il y avait 5000 personnes. C'est une très grande base d'aviation légère d'armée de terre. Colonel Crespin qui allait s'occuper ensuite des Jeux Olympiques, de je ne sais trop quoi. Il avait fait construire un parcours de Jeux Olympiques et on faisait de la gymnastique et des exercices militaires toute la journée pendant 4 mois, vous rendez compte? Alors, il fallait ramper, etc., tomber dans la fosse, j'arrivais pas à ressortir de la fosse, monter dans les échelles. Ça a été 4 mois d'enfer. Cela dit, physiquement, 4 mois de sport comme ça, ça m'a peut-être pas fait de mal. Mais il faisait un froid de canard, hein. C'était l'hiver, et je vous assure que l'hiver, de ces hauts plateaux, hein, parce que Sétif, c'est déjà ça, eh bien, c'est rude.
Mais vous, est-ce que vous aviez, est-ce que, en tout cas, cette présence en Algérie a fait naître en vous une inclination pour l'Algérie algérienne, l'Algérie, un attachement à l'Algérie française, ou c'était l'indifférent?
J'étais indifférent. Mmh. Je dois dire, je m'en vante pas. Hein. Mais ensuite, j'ai été un an et demi, un peu plus, dans la Mitidja, c'est-à-dire à 20 kilomètres d'Alger. Alors, passer de ces coins de Sétif, enfin avril, et arriver là, c'était passer de la Côte d'Azur, si vous voulez, de, je sais pas, de la Norvège à la Côte d'Azur. Hein, c'est, ça n'a rien à voir, le climat. Alors là, pendant un an et demi, bah, j'ai attendu, comme tout, j'ai attendu la quille. C'est ça, pendant un an et demi.
Et vous êtes rentré en 62?
Oui.
Vous avez repris votre poste
Exactement. Mais sinon, j'étais pas mal, hein. J'étais chef de bar. C'est-à-dire que, plus que ça même, j'étais adjoint du directeur des loisirs. C'est-à-dire que je m'occupais du bar, essentiellement, mais aussi du ping-pong, du baby-foot. J'avais des coiffeurs sous mes ordres qui faisaient bon. La bibliothèque où personne ne venait, mais c'était le bar quand même. Je restais toute la journée, c'est-à-dire la nuit aussi, hein, je gardais le bar. Donc j'avais un poste clé, parce que c'est un poste clé, hein, que de tenir le bar.
Vous aviez du pouvoir.
Ah oui. Oui, d'une certaine façon, vis-à-vis des gradés, etc. J'avais un commandant dessus. Pas dire un capitaine au-dessus de moi, hein, mais oui, j'avais du pouvoir. D'abord parce que je pouvais distribuer de la bière en douce à ceux quand c'était interdit. Même un adjudant de discipline qui ne pouvait pas s'empêcher de boire, quand il ne pouvait pas, il tapait au carreau. Moi, j'étais resté dans mon bar et il me disait « Corbin, une bibine ». Toutes les demi-heures, je lui donnais une bibine. Comme il disait, je n'ai jamais été puni. Hein.
Et est-ce que mai 68, Alain Corbin, est-ce que mai 68 a davantage réveillé une conscience politique?
C'est mai 68 à Limoges. Faut bien comprendre ça. C'est pas la Sorbonne occupée, c'est pas le boulevard Saint-Michel. Non, c'est la gare de Limoges, ce truc, avec les drapeaux de la CGT. Hein, c'est ça, mai 68 à Limoges, avec quelques manifestations. Non. Quand j'ai fait allusion parce que j'étais en train de rédiger ma thèse et que ça me donnait quelques loisirs.
C'est votre thèse, Alain Corbin, c'était votre thèse de troisième cycle?
Voilà, celle qui vient d'être en partie publiée, parce que j'ai pensé que cette histoire orale, qui ne se faisait pas d'ailleurs, hein, que cette histoire orale...
Enquête orale.
Voilà, c'est une enquête orale et c'est 189 personnes qui m'avaient reçu gentiment pendant une heure... Hein, pour parler de la période 1934-1936.
Ce sont des personnes du Limousin.
J'avais pris des gens un peu au hasard en ce qui concerne la population de Limoges, tous les gens dont des survivants de 36 en 66.
Des personnes qui avaient pu voter au moment
qui avaient voté en 36 et qui étaient survivantes en 66-67. Et j'avais pris les noms de gens qui commençaient par BABE, puis j'avais été voir des paysans dans une série de communes rurales. J'arrivais, je n'avais pas évidemment téléphoné avant, à l'époque ça n'existait pas, ils n'avaient pas le téléphone de toute façon, la plupart, je suppose. J'étais obligé d'arriver, de frapper, de dire, voilà, je viens vous parler de 34-36, vous vous rendez compte? Et pendant peut-être une heure, il y en a 66% qui ont accepté, c'est étonnant. Sans avoir été prévenu, donc pas. Aujourd'hui, vous imaginez, il aurait fallu téléphoner, prendre rendez-vous, etc. Non, et puis j'avais pas de magnétophone parce que c'était de trop gros, à l'époque, trop gros instruments, ça leur aurait fait peur, hein. Donc, je parlais, je prenais des notes, je mettais au propre ces notes dans la voiture.
Que provoquait chez eux le souvenir du Front populaire?
Ah, ça, c'est tout le livre. C'est-à-dire que j'avais posé 12 questions. C'était pas uniquement le Front populaire, c'est la période 34-36. J'avais posé 12 questions sur que pensez-vous des Allemands, que pensez-vous des Russes, des Américains, que pensez-vous de Léon Blum, que pensez-vous de Laval de Léon Blum, que pensez-vous de la SDN, que pensez-vous... Voilà, les 12 questions que j'ai reproduites dans le livre et leurs réponses. Et c'était, avec le recul du temps, puisque ça fait quand même... Ils sont tous morts, hein. Ça donne une vision des années 30, au moins de cœur de 34-36, qui ne correspond pas à ce que je lis dans les livres. Parce que ces gens-là étaient absolument enfouis dans la guerre de 14, en 14-18, c'est-à-dire que toute leur opinion était en grande partie constituée par ça, par l'école primaire, par les discussions au bistrot, mais surtout à l'atelier, hein, en famille, etc. Donc une période enfouie dans la guerre de 14, dans laquelle on comprenait que Laval n'avait peut-être pas été si mauvais comme président du Conseil, alors qu'il savait fort bien ce qu'il était devenu par la suite, qu'il aimait beaucoup Blum parce qu'on était bien sûr en Limousin, et puis qui aimait aussi la SDN, hein, qui avait cru un certain temps à la SDN, qui n'avait pas bien compris le chômage et la crise, un chômage dont ils arrivaient à sortir un peu en allant faire un autre petit boulot que le patron leur faisait avoir, que... enfin bref, c'est tout à fait, et pas d'Hitler, pratiquement pas, aucun. Pour 34-36, parce que Hitler venait de prendre le pouvoir, c'était pas descendu, là, vraiment, c'était dans la presse. Mais la presse, moi, que j'avais étudié aussi, ben, la presse n'était pas un objet, enfin, une cause de façonnement de l'opinion à ce moment-là. Puis alors, l'amour du localisme, hein, tous les députés du coin, le maire de Limoges, Léon Betoul, un dieu absolument pour eux. Donc, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Moi qui n'ai jamais pu par la suite rencontrer des gens dans les archives, des gens du peuple, si je puis dire, hein, disons ça. Parce que moi, j'allais voir des ouvriers, j'allais voir des porcelainiers, des gens du Paris-Orléans, c'est-à-dire le chemin de fer, des paysans. Donc j'étais vraiment... J'avais proposé d'ailleurs comme titre l'histoire en Razmot. Mais l'éditeur n'a pas voulu. Hein. Mais par la suite, j'ai recherché ça dans les archives, mais ces gens-là n'ont pas laissé d'archives. Donc c'est l'importance de ce livre, pour moi, mais aussi pour eux, mais c'est l'idée qu'on a là accès à une parole brute de décoffrage, hein, qui peut paraître idiote à certains moments. Les gens qui, à propos des Allemands, disent « Ah oui, on avait envoyé en 70 un train d'or », ou bien, oui, des choses comme ça. Et puis alors, l'ennemi héréditaire, c'est l'anglais, hein, c'est l'allemand. L'allemand, faut se méfier, c'est un serpent, faut l'écraser.
Et on est en... Oui, oui, mais vous les rencontrez en 67.
Elle les rencontrait, mais ouais. Alors, ils n'avaient pas oublié ce qu'ils pensaient à l'époque. C'est ça. C'est ça, c'était ma crainte.
Alain Corbin, vous mettez tout le temps en garde les historiens contre l'anachronisme psychologique. Voilà. Comment vous... c'est sûrement recouvert par leur présent.
Voilà, alors, c'était ma grande peur. Mais j'ai été très étonné de voir que ces gens n'étaient pas des idiots, finalement. Ils faisaient bien la différence entre ce qui est arrivé après et ce qu'ils pensaient alors. Et un des tests qui était imparable, c'était Laval. Parce qu'ils savaient tous, ils commençaient, « Oh, bah Laval, hein, c'est pas arrivé. » Mais en 35, quand il était président du gouvernement, ses décrets lois, ça nous avait, pour 50%, ils ont dit que ça leur avait paru bien. Il avait diminué les fonctionnaires, vous rendez compte. Merveilleux. Bon. Et ça m'avait beaucoup rassuré.
Et sur Blum, Alain Corbin?
C'était.
Il y avait un seul discours?
Très majoritairement favorable. Très majoritairement favorable, j'ai même obtenu des larmes. Je racontais d'ailleurs dans l'introduction, je suis arrivé chez un ancien porcelainier en blouse grise, dans un logement social sans doute, hein, et je lui ai dit « Que pensiez-vous de Léon Blum ?» Mais il m'a pas répondu. Je me disais « Silence, pourquoi ?» Et des grosses larmes. Grosses larmes, j'étais ému quand même, hein. Grosses larmes, cet ouvrier porcelinier, cet ancien ouvrier porcelinier m'a dit, quand je pense que tout ce qu'on avait espéré de cet homme-là, de ce temps-là, etc., et voyez ce que je suis devenu, c'était pas mal d'ailleurs, voyez ce que je suis devenu aujourd'hui, etc. C'était émouvant comme ça.
Et Alain Corbin, est-ce que vous avez eu des attachements forts à des hommes politiques de votre temps, comme cet homme-là, ou est-ce...
Ah ben, c'était pas un homme politique, c'était...
Non, mais est-ce que vous, dans votre vie, cet homme-là était attaché à Blum, est-ce que vous avez...
J'ai pas été très attaché au cas, vraiment. Je vous dis, j'ai pas milité, donc, sinon j'aurais milité, hein. J'ai eu mes préférences, évidemment, puisque j'ai toujours voté. Fallait bien voter pour quelqu'un. Donc, j'ai eu mes préférences qui ont évolué parfois, un peu erratiques, hein. Ça, c'est comme dans une longue vie, c'est assez classique. Mais non, j'ai pas été emballé, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Vous avez dit que la parole que vous avez récoltée sur les années 34-36 était bien différente de ce que vous lisiez dans les livres sur les années 30.
Oui. Alors, quelle est cette... De ce que je lis, là,
Quelle est ce qu'on lit le plus souvent?
On y voit que la montée du fascisme, Hitler... Mussolini était présent à cause de la guerre d'Éthiopie, dans mon enquête. Et là, ça avait fait tilt, hein, Mussolini, la guerre d'Éthiopie. Hitler, c'était un peu trop tôt, sans doute, hein, parce qu'on est en 34-36, hein, c'est-à-dire 34-35 essentiellement. C'était pas encore le Front populaire, mais enfin, c'était sa préparation. Hein. Je sais plus trop où vous me demandiez.
La comparaison entre ce que vous... Le fossé entre ce que vous entendiez et ce qui était normalement...
Lisez ce qu'on lit sur les années 30, vous verrez ce que c'est. Ça pose le problème aussi des chronotypes dont Dominique Khalifa est le spécialiste, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais les cas, on ne réfléchit jamais à la différence qu'il y a entre l'avant-guerre et l'après-guerre. Un après-guerre, ça a un statut particulier dans la mesure où on le vit, un après-guerre, et on peut en parler. Mais un avant-guerre, on ne sait pas qu'il va y avoir la guerre. Donc, ce n'est pas le même statut. C'est quelque chose d'a posteriori. C'est après-guerre qu'on va parler d'un avant-guerre. Mais on oublie que les gens qui vivent l'avant-guerre, certains disent « Oh, il va y avoir la guerre !» On le dit même aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas ça n'a pas la même solidité mentale qu'un après-guerre. Et donc là, il y a, à mon avis, beaucoup d'historiens à propos de ce qu'on appelle l'avant-guerre tombent dans le panneau. C'est-à-dire se rendent pas compte qu'il faut aller redemander aux gens de cette époque sans penser que c'est un avant-guerre.
Mais vous trouvez que c'est un
avant-guerre? C'est vrai pour la pré-révolution française. Il y a Monsieur Aigret qui avait écrit un livre, La pré-révolution. Jean-Marie Goulmeau, qui est un spécialiste de littérature, a beaucoup dénoncé ça. La pré-révolution? Ben non, puisque on ne sait pas qui va avoir la révolution. Alors, c'est après la Révolution. Bon, c'est le même type de danger que lorsque on parle d'avant-guerre. Or, aujourd'hui, notre avant-guerre, etc., etc., on ne conçoit les années 30 qu'en fonction de la guerre.
Mais est-ce que ça invalide...
S'il n'y avait pas eu de guerre...
Mais est-ce que ça invalide, Alain Corbin, les livres qui ont été écrits sur...
Ça les invalide plus ou moins. Mais s'ils tombent dans ce panneau, oui, ça les invalide. S'ils tombent pas dans le panneau... Admettons qu'il n'y ait pas eu de guerre, ça n'aurait rien changé aux réponses que j'ai de ces gens 34-36. Hein?
Oui. Vous faites une thèse, après cette thèse de troisième cycle, vous faites une thèse pour laquelle vous venez rencontrer à la Sorbonne Ernest Labrousse, qui est un grand...
Non, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Parce qu'il fallait des intermédiaires. Michel Perrault était son assistante, elle m'avait donné des indications, et Bertrand Gilles, qui m'a dirigé ma thèse, avait écrit au maître.
en quelque sorte. Il ne vous a pas reçu.
Pour demander en quelque sorte la permission, hein, de diriger cette thèse régionale, puisque c'est lui qui distribue les régions. Et il avait répondu à Bertrand Jus, mais oui, donc d'autant plus qu'il la connaissait bien, paraît-il, le Limousin. Mais enfin, ça donne une idée de ces grands programmes, faire étudier toute la France, région par région, pour... Bon, ça c'est oublié un peu aujourd'hui, mais ça avait sa validité, hein.
C'était de l'histoire sérielle.
Ah oui. Il fallait étudier les prix du blé, il fallait construire des graphiques, de médianes mobiles, de tout ce qu'on veut, des choses extrêmement... que j'avais apprises, hein, durant ma préparation de licence. Mais au bout d'un an, j'avais des tas de graphiques, hein. J'ai été voir Bertrand Gilles, qui était un grand économiste, grand historien de l'économie, qui m'avait dit, oh, vous savez, vos Limousins, ce que vous étudiez, en particulier ceux de la montagne, Corrèze, Creuse, et Moutier, en Haute-Vienne, etc., bah, ils mangeaient des châtaignes, souvent. Ils mangeaient des lapins, du gibier qu'ils avaient. Ils avaient aussi leur jardin, leur poule, etc. Puis comme céréales, le sarrasin, Alors, vous savez, les graphiques que vous faites sur le prix du blé, etc., je ne suis pas certain que ça soit très intéressant.
Et vous étiez de son avis.
J'étais vite, facilement de son avis, d'autant plus qu'il avait une autorité d'historien économique. Si vous voulez, hein. Donc, j'ai laissé tomber un peu mes graphiques, tout complètement, mes graphiques, et j'ai fait une sorte d'ethno-histoire du Limousin.
Vous êtes nommé professeur à Tours en 1960.
Non, maître assistant, ça s'appelait d'abord.
Ah.
Et aussitôt après, on devenait professeur, mais ça s'appelait maître de conférence. Les professeurs qui s'appellent aujourd'hui professeurs de première classe, s'appelaient maître de conférence. On a changé beaucoup le vocabulaire, mais ça revient au même. Hein. J'ai été nommé, oui, en 69, grâce à ma thèse d'histoire orale dont j'ai parlé. J'ai succédé à Jacques Zouf comme maître assistant à l'université de Tours.
Et en 1986, vous êtes élu à Paris, à Paris 1.
Oui, c'était un poste important. La chaire, comme on disait, d'histoire du 19e siècle à l'université de Paris 1, oui, ben c'était une satisfaction, bien sûr. Ça donnait la possibilité de diriger des thèses, parce que même quand j'étais professeur à Tours, assez souvent, je disais aller voir Michel Perrault, parce que je voulais que les bons élèves qui voulaient une thèse aient un grand professeur, si vous voulez.
Merci Alain Corbin. Bonsoir, à demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lainé avec Alain Corbin. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, prise de son Yann Fressy. Cette émission se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.